Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le département informatique de l'université Paris 8 de Saint-Denis, donc dans le 9-3 comme on dit dans le 93, avec Anna Papa, maîtresse de conférences en informatique, chercheuse en traitement automatique des langues naturelles, co-responsable de la licence informatique et vidéoludisme à l'université Paris 8. Bonjour Anna.
Bonjour Fred.
Également Pablo Rosi avec moi au studio, maître de conférence en informatique, chercheur en sécurité informatique et privacy, donc vie privée, co-responsable de la licence informatique et vidéoludisme à l'université Paris 8. Bonjour Pablo.
Hello.
Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission. Vous allez sur le site causecommune.fm, bouton de chat, et vous nous rejoignez sur le salon si vous avez des questions ou des remarques pour nos deux invités. Avant de leur passer la parole pour une présentation individuelle, je vais d'abord faire une petite introduction parce que c'est un grand grand plaisir d'animer aujourd'hui cet échange, qui est la 93e émission d'ailleurs de Libre à vous, donc pour parler d'une université qui se situe dans le 93, c'est bien choisi. Pourquoi c'est un grand plaisir? Parce que j'ai bien connu le département d'informatique de Paris 8 pour y avoir fait mes études dans les années 90, pour y avoir passé des nuits. À l'époque, la fac était ouverte 24 heures sur 24, notamment pour les départements d'informatique et d'art. Je ne sais pas si c'est le cas encore, mais on verra tout à l'heure. Et c'était un univers particulier, sans mot de passe, administration sur la plupart des machines, sauf sur certains serveurs. J'ai notamment découvert le logiciel libre. La philosophie de Paris 8, c'était qu'on était libre de faire ce qu'on voulait sur les machines. On était là pour apprendre par la pratique. Alors, on a installé des logiciels libres pour nos besoins. J'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de ma vie, notamment des personnes qui m'ont expliqué qu'on pouvait avoir un impact sur la société à partir de l'informatique, grâce à l'informatique, et notamment Marc Détienne, qui était chargé de cours et passait souvent des nuits avec nous. Puis plus tard, Richard Stallman, l'initiateur du mouvement du logiciel libre, qui est venu faire une conférence à Paris 8. Assez naturellement, à la fin de mes études en 96, j'ai créé avec 4 camarades l'April, pour faire comprendre, mais surtout connaître le logiciel libre. Donc les liens entre Paris 8 et l'April existent toujours, hein, l'UFR est membre de l'association, et nous y organisons nos assemblées générales depuis quelques années. La prochaine est prévue le 20 mars 2021, malheureusement je pense que ce sera en distanciel vu les conditions. Donc voilà, c'était une introduction, donc c'est une émission un petit peu particulière, et en plus voilà, j'ai connu Anna à l'époque de nos études communes à Paris 8.
Exact.
Alors première question justement, une présentation individuelle, on va commencer par Anna qui est au téléphone avec nous, donc Anna Papa.
Oui, merci de cette invitation Fred, effectivement ça me fait penser aller quelques années en arrière quand on était étudiant en informatique. Voilà, moi j'ai poursuivi donc si on peut dire ça, une voie académique. Donc, j'ai effectué mes études supérieures avec une thèse. Et après, j'ai poursuivi avec le parcours commun, qualification, CMU, poste, enfin, à Paris 8. Donc, j'ai un poste de maître de conférence à Paris 8, là où j'ai fait mes études. J'en suis très fière. Voilà. Et depuis, j'enseigne et j'ai été responsable de différents formation, mais depuis cette année avec Pablo Rosi, on est co-responsable, enfin j'ai l'aide pour la responsabilité de la licence informatique.
D'accord, merci Anna. Donc justement, Pablo Rosi, petite présentation.
C'est ce que tu as dit déjà, hein, Fred. Moi, je suis maître de conférence à Paris 8 depuis 2016. Avant ça, comme Anna l'a dit, hein, j'ai fait postdoc, thèse, etc. Donc je suis chercheur en sécurité informatique et privacy. Ce que j'aime bien dire que je fais, c'est de la sécurité informatique émancipatrice, qui est vraiment au service des gens et pas des organisations ou privées ou des États. Et donc, à part ça, et surtout d'ailleurs, je suis enseignant et responsable de la licence informatique de Paris 8 qu'on essaye de maintenir dans un esprit qui est un peu celui que tu as décrit dans l'introduction.
D'accord. Alors on va y revenir en détail tout à l'heure, mais on va commencer par un historique aussi, d'abord de Paris 8, un cours historique de Paris 8, parce que les gens ne connaissent pas forcément l'historique de Paris 8, et ça joue, je pense, clairement sur la façon dont les enseignements sont faits à Paris 8, et moi qui ai fait mes études comme maintenant dans les années 90, c'est encore sans doute plus vrai. Donc Paris 8, c'est le nom officiel, c'est Vincennes à Saint-Denis. Donc Pablo, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel historique sur cette première partie, l'historique de la création de Paris 8?
Ouais, tout à fait. D'autant plus que c'était une des raisons principales de ma volonté d'avoir un poste dans cette université que je connaissais pas avant d'avoir regardé un peu son histoire, justement parce qu'il y avait un poste qui était ouvert l'année où je candidatais. Donc Paris 8, c'est une université qui a effectivement été ouverte d'abord comme centre universitaire expérimental dans le bois de Vincennes à la suite des événements de mai 68, en fait. En gros, pour la faire courte, tous les gauchistes de mai 68, donc l'université de Paris s'est scindée à ce moment-là, suite aux événements qui se sont passés, et tous les gauchistes se sont rassemblés dans le bois de Vincennes pour ouvrir une nouvelle université avec des façons alternatives d'enseigner. Par exemple, il n'y avait plus besoin d'avoir le bac, il y avait des cours du soir pour les ouvriers pour faire de la formation continue, il y avait un rapport beaucoup moins hiérarchique entre enseignants et étudiants et étudiantes, beaucoup de choses comme ça. Et notamment, du coup, ils ont ouvert les premiers en France départements d'art qui auparavant n'étaient pas enseignés à l'université, puis c'était au conservatoire, qui, comme leur nom l'indique, sont conservateurs. Et puis d'autres choses nouvelles, comme de l'urbanisme par exemple, et de l'informatique, puisque à l'époque, il commençait à y en avoir évidemment. Donc c'était en 68, il faut savoir que le premier département d'informatique dans le monde, c'est à l'université de Purdue en 62. Et le premier département d'informatique universitaire en France, bah, c'est suite Paris 8.
C'est suite Paris 8 ? C'est pas voilà. L'un des premiers, c'est vraiment le premier ?
C'est le premier. Il y avait déjà de l'informatique, hein, mais pas de département, universitaire dédié à ça.
D'accord. Et donc Paris 8 arrive à Saint-Denis, c'est quoi, c'est les années 80, c'est ça ?
C'est 10 ans après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, du coup, le bois de Vincennes, c'est propriété de la mairie de Paris. À l'époque, c'était Chirac qui était là-bas, et Chirac, tous ces gauchistes sur son territoire, ça lui plaisait pas. Et une phrase fameuse qui s'est passée, c'est genre, bah, on va les mettre à Saint-Denis dans le 93, entre le boulevard, la rue de la Liberté et l'avenue Lénine, ou je sais pas quoi, ça leur fera les pieds, quoi, en gros.
Oui, effectivement. Donc ça, et donc de mémoire, je crois que c'est 80 ou 81 l'arrivée.
C'est ça, c'est 80, oui.
À 80.
Donc en fait, il y a eu une grosse lutte pour ne pas bouger l'université par les étudiants, les usagers, les étudiantes et les enseignants enseignantes de l'université, qu'ils ont perdu parce qu'en fait, ils se sont fait évacuer, et il y a plusieurs entreprises qui ont été de démolition qui ont été convoquées par la mairie de Paris, et en une nuit. Le campus a été entièrement détruit en une nuit pour être sûr qu'il ne reviendrait pas occupé. Et aujourd'hui, c'est difficile, en étant sur place dans le bois de Vincennes, de s'imaginer qu'il y avait une université là-bas, quoi.
Et alors, je n'ai pas du tout le nom en tête, mais on mettra les références sur le site de l'April et de Cause Commune. Il y a un documentaire justement sur cette partie de Vincennes qui est passé.
Vincennes, l'université perdue.
Voilà, c'est Vincennes, l'université
perdue. Très, très bien, ce documentaire.
Je crois que c'est Arte ou autre chose, mais en tout cas, vous cherchez. Voilà, on mettra le lien parce que je l'ai vu récemment et c'est vraiment passionnant. Donc ça, c'était la partie effectivement, donc Vincennes à Saint-Denis. Donc c'est, comme tu le dis, c'est arrivé, donc c'était envoyé donc dans le 9-3. Donc le premier département d'informatique et l'un des premiers aussi départements d'art. Et d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que quand Naomi et moi on faisait nos études, on voyait souvent les gens d'art plastique parce qu'eux aussi passaient des nuits là-bas. Donc département informatique, Pablo explique donc qu'il a été créé, donc c'était le premier. Il a été créé par
ça a commencé aussi en même temps avec la création, pardon Fred. Ça a commencé en même temps, et en fait c'était carrément, enfin, le nom qu'ils voulaient à l'époque, c'était intelligence artificielle. Enfin, ils ont vraiment parlé de faire de l'intelligence artificielle tout au début des créations de... Il n'y avait pas vraiment cette notion de département, hein. Donc une des personnes, enfin moi, que je connais comme fondateur, qui était encore quand nous on avait commencé nos études, bon, il est au début, en tout cas, c'était Yves Lesser. C'est lui qui faisait partie des fondateurs de l'informatique à Paris 8, enfin à Vincennes, qui est devenu après Paris 8, évidemment, Vincennes-Saint-Denis. Et c'est à ce moment-là que ça a regroupé, enfin, ça a attiré l'intérêt de différents informaticiens qui étaient peut-être attirés par cet esprit de savoir libre, de l'interdisciplinarité, le fait que la linguistique tenait une position très importante à l'époque au savoir à Saint-Denis, enfin, pardon, à l'université Paris 8. Et donc, il faisait en sorte que cette notion de mélanger les disciplines et les savoirs, c'était très en vogue, il voulait le garder, et l'informatique, en fait, c'était, elle est ouverte à tous, tout le monde peut venir, tout le monde qui a envie de jouer avec une machine, enfin, il peut se mettre à coder, il peut se mettre derrière une machine, et puis c'était cet esprit-là qui a animé le début, en tout cas, de l'informatique à Paris 8.
Alors c'est important ce que tu précises, notamment sur cette multiple disciplinarité, parce que je suppose donc comme toi, moi quand j'ai fait mon, alors à l'époque ça s'appelait un DUG, un diplôme d'études universitaires générales, je crois, qui s'appelait DUGMAS à l'époque, donc mathématiques appliquées aux sciences sociales, mais en fait à Paris 8 c'était, on avait une majeure informatique, une dominante informatique, et à côté on devait choisir entre maths, ce qui peut paraître logique, et j'aurai une question tout à l'heure justement sur le lien avec les maths, mais ce qui peut paraître moins logique pour nous étudiants qui débarquions, c'était on pouvait aussi choisir soit linguistique, soit littérature. Et donc, en fait, il y avait des étudiants donc, qui faisaient effectivement informatique et linguistique, d'autres informatique et littérature, et d'autres informatique et maths. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant par rapport, et c'est un peu l'historique forcément de Vincennes. Et à l'époque, il y avait déjà, il y avait encore des étudiants, enfin des enseignants qui venaient de Vincennes. Donc voilà, c'est une fac un peu particulière. Et c'est vrai que c'est Marc Détienne d'ailleurs qui disait les gens qui survivent à Paris 8, après, c'est forcément des bons, parce que c'est une fac tellement particulière. Mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure.
Ouais, les conditions, c'était pas toujours facile, j'imagine. Et aussi, on peut dire à ce moment-là que c'était quand même le début hein, de ce centre universitaire expérimental. C'était, ils voulaient des gens qui étaient assoiffés du savoir sans se préoccuper s'ils avaient par exemple un baccalauréat ou pas. Tout le monde était dans le même pied d'égalité, que ce soit un enseignant, que ce soit quelqu'un qui travaille dans l'administration, que ce soit un étudiant. Tout le monde était pareil, tout le monde était dans l'égalité. Donc cette notion d'égalité, le fait que pouvait très bien le suivre de cours de littérature, de l'informatique, des psychanalyses, parce qu'il y avait quand même des disciplines qui ont été créées hein, par EUIT, qui n'existaient pas ailleurs. Bah, c'est ça qui faisait cette particularité. Les gens qui n'avaient pas le bac, mais qui avaient envie d'apprendre, ils pouvaient aller suivre des cours. Et le fait qu'il y avait toujours cette notion, on ne fait pas de cours magistraux, les gens voulaient faire des petits groupes, question de cette proximité. Et il y a déjà enfin, des philosophes très connus hein, qui enseignaient là-bas, enfin qui enseignaient à Paris 8, comme Deleuze par exemple, et toujours dans les petites salles, tout le monde qui s'est précipité avec enfin, toutes les photos qui le montrent avec tous les micros devant lui, c'est parce qu'effectivement il y avait cette notion de petit groupe, hein, on fait des travaux dirigés, c'est dans le pied d'égalité, on ne fait pas de cours magistraux. Et on est tous autour des tables, on est tous égaux, quoi. Voilà.
Alors, justement, on va détailler ces spécificités, mais effectivement, ce que moi j'avais noté, c'était pas de cours en amphi, une approche allant de la pratique à la théorie plutôt que l'inverse, proximité des enseignantes et enseignants avec les étudiants et étudiantes, et aussi, bien sûr, le logiciel, on y reviendra. Mais là, sur le salon web, il y a une question, je ne sais pas si vous saurez répondre, il y a Sarah qui demande, est-ce qu'il y a des liens avec les lycées expérimentaux, les lycées XP ? Est-ce que l'un de vous deux serait capable de répondre ?
Pablo. Alors, je suis pas sûr déjà de ce que sont les lycées expérimentaux et ça répond à la question. Non, il n'y a pas de lien spécifique avec ces lycées-là, même si c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour recruter des profils un peu atypiques et tout ça qui pourraient nous intéresser. Je pense par exemple au lycée autogéré de Paris où effectivement ça, c'est des choses qui pourraient nous amuser d'avoir des liens comme ça, d'accueillir même peut-être si on a les moyens. Bon alors en ce moment de toute façon non, mais des classes de lycée pour une demi-journée par exemple qui vont un peu commencer la fac, tout ça. Ouais.
Tout à fait, ouais. Et juste préciser aussi que tout à l'heure, quand Anna disait qu'on n'avait pas forcément besoin du bac pour accéder à Paris 8, on n'avait pas forcément aussi besoin de papier.
À l'époque.
Je parle bien de l'époque. On reviendra sur les évolutions. Où à l'époque, effectivement, tout le monde était les bienvenus. Papier sans papier, baccalauréat, pas de baccalauréat. Donc
Exactement, les étrangers, tout le monde.
Voilà.
Le monde.
Et c'est ce qui faisait une richesse incroyable de cette université, comme ce qui fait d'ailleurs la richesse de la ville de Saint-Denis, c'est ce cosmopolitisme.
Tout à fait.
Moi, je précise que j'habite toujours à Saint-Denis, en fait. Donc voilà.
Moi aussi.
Et toi aussi.
Et je viens de Marseille à la base.
Ah oui, bon, et puis moi je viens du 9-2, donc tu vois le... Bon, ceci dit, là on a fait une petite introduction un peu plus longue que prévu, mais c'est pas grave parce que c'est très important entre les liens entre donc Vincennes à Saint-Denis et puis le démarrage du département informatique. Là on va rentrer un petit peu. Si, je viens de voir une question. Alors le problème c'est que je m'excuse pour les gens qui sont en régie, c'est en fait que j'ai sur les lunettes, j'ai de la buée donc je vois pas forcément tout.
Les masques.
Alors il y a une question donc d'Étienne qui demande quel est le lien entre l'apprentissage de l'informatique et l'émancipation, et il poursuit dans quelle mesure ça a changé depuis 68. Pablo.
Oula, le lien entre l'apprentissage de l'informatique et l'émancipation. Bah déjà, il y a donc c'est quelque chose que tu as dit à un moment donné dans ton introduction. Il y a un fort lien entre maîtriser cette technologie qui est partout aujourd'hui, même si c'est un peu bateau de dire ça, et faire les codes de ce qui nous entoure. Et faire les codes avec un jeu de mots, justement, du coup, de programmer et de qu'est-ce que c'est les règles, qu'est-ce que c'est la loi. Ce que j'explique souvent aux étudiants, c'est imaginez que la loi vous autorise à, par exemple, suivre, je sais pas, mettons 10 cours, mais que le logiciel qu'utilise l'université ne permet d'en rentrer que 8. À votre avis, qu'est-ce qui s'applique ? Bon, voilà. Donc, c'est ce que, je crois que c'est Cory Doctorow qui disait « Code is law », ou alors c'est Lawrence Lessig.
Non, c'est Lawrence Lessig, là.
D'accord, ouais. Je confonds les deux. Donc Lawrence Lessig, ouais, voilà, qui disait Code is Law, c'est quelque chose qui est très vrai. Et donc en fait, il y a un double aspect émancipateur d'apprendre comment ces choses-là qui nous contrôlent finalement fonctionnent. Et le revers de ça, c'est du coup la responsabilité qu'on a quand c'est nous qui devenons les gens qui développons ces choses-là.
D'accord.
Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, le lien avec la société, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire transmettre à nos étudiants et étudiantes dans la formation. On est par exemple, je pense, une des seules, voire la seule formation en informatique où il y a un cours d'histoire de l'informatique qui est obligatoire et qui est l'occasion justement de parler énormément de politique, de social, d'écologie et de justement contextualiser politiquement, socialement ce rôle d'informaticien, d'informaticienne et de la technologie qui malheureusement est beaucoup plus asservissante qu'émancipatrice aujourd'hui.
Tout à fait. Et à mon époque, dans les cours de maths qu'on avait, il y avait des cours de maths vraiment maths, et puis il y avait des cours d'histoire de maths.
Il y a toujours, ouais.
Il y a toujours, bon, c'est très bien.
Le département mathématiques de Paris 8 est toujours beaucoup focalisé sur l'histoire des mathématiques. Ouais.
D'accord. Alors, on va parler un petit peu des spécificités de cette formation. On va commencer par la première, bon, la première, en tout cas celle que j'ai choisie en premier, parce que ce qui m'a le plus impressionné à l'époque, c'est dès la première année, on fait de l'informatique. On travaille sur des machines, on voit un peu de théorie, mais en fait, c'est d'abord la pratique. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, lors de la séance d'accueil que j'avais eue, en fait, les enseignants qui étaient là expliquaient, voilà, il n'y a pas de mot de passe administration sur la plupart des machines parce que vous êtes là pour apprendre, donc vous faites ce que vous voulez, éventuellement avec les risques, mais vous êtes là pour apprendre. Donc cet aspect pratique fondamental est important. Qui veut commencer sur ce sujet-là?
Si tu veux, Fred, je peux juste commémorer un peu le moment où, effectivement, à notre époque, en tout cas, je sais pas si tu te souviens, c'était quand même des étudiants qui géraient le bocal, enfin, le fameux bocal, enfin, la salle où on s'est retrouvés tous avec des machines sans fenêtres. Bon, bref, on passait des nuits à coder. Et effectivement, cette histoire de ne pas avoir le mot de passe administrateur, ça permet à beaucoup de, parmi nous, de participer à la gestion du bocal, n'est-ce pas? Tu te souviens comment ça a été à l'époque? Et, bon, c'est plus le cas aujourd'hui, hein. On a des ingénieurs avec deux mots de passe, hein. Mais effectivement, ça reste quand même l'esprit bocal, enfin, le fait de pouvoir se retrouver les étudiants dans une salle et travailler ensemble, ou même donner des cours qui dépassent en fait le périmètre des étudiants de ce cours, mais qu'il y en a d'autres qui travaillent à côté de machines et qui peuvent suivre un peu, etc. Ça reste toujours d'actualité.
D'accord, et donc en pratique, comment ça se passe aujourd'hui, Pablo?
Alors, bon, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut plus faire parce que l'environnement est beaucoup plus hostile. J'ai une comparaison très foireuse qui me vient, mais effectivement, on pouvait s'imaginer dans les années 60... pas avoir besoin de préservatif, aujourd'hui c'est plus possible. Bah, c'est un peu pareil pour l'informatique et le réseau, j'ai envie de dire. Plus avoir de mots de passe sur les machines, de plus de mots de passe administrateurs sur les machines aujourd'hui, ce serait le Far West et les machines elles dureraient que 2 jours, quoi. Pas à cause des étudiants, à cause du réseau, évidemment. Donc aujourd'hui, alors pour revenir sur ce que tu disais, effectivement c'est une formation très pratique, c'est assez unique dans le paysage. Faut savoir que la plupart des licences, en fait la première année est un espèce de portail scientifique commun et c'est qu'à partir de la deuxième année qu'on se spécialise vraiment en informatique. À Paris 8, on a fait le choix de garder cet aspect spécifique, de dire bah, dès la première année, on peut faire à 100% de l'informatique si on a envie, ou on a toujours un système de majeur-mineur, comme tu le décrivais, avec une majeure informatique et une mineure qui peut être prise en mathématiques, comme tu disais, et on a des accords avec les départements d'art, on a une étudiante qui fait une mineure en philosophie aussi, de cinéma, musicologie.
Ah, donc ça existe toujours, ce principe?
Ce principe existe toujours, et la mineure qu'on propose en interne par défaut, nous, c'est une mineure qui s'appelle conception et programmation de jeux vidéo, parce que le jeu vidéo est un objet d'étude, justement, qui permet de mettre les mains dans le cambouis et de toucher à un peu tout, c'est-à-dire du graphisme, de la programmation réseau, de l'intelligence artificielle, enfin ça touche à beaucoup de sujets de l'informatique.
L'objectif, c'est pas que les gens deviennent développeurs ou développeuses de jeux vidéo, mais qui justement
sauf s'ils ont envie,
plutôt qu'ils découvrent l'ensemble des choses possibles à faire.
C'est ça, avec toujours une formation avec les mains dans le cambouis, c'est-à-dire les mains sur le clavier, beaucoup de programmation et tout ça. Donc il y a toujours cet aspect-là de les étudiants et étudiantes sont beaucoup sur les ordinateurs et font beaucoup de projets, apprennent par la pratique et on arrive à la théorie comme ça, c'est-à-dire que c'est pas trop la méthode française classique où d'habitude on présente la théorie puis on fait des exercices d'application. Nous, on va essayer plutôt de présenter la pratique et amener par la pratique à se poser les questions qui nous amènent à justifier de parler de la théorie. C'est un peu, alors évidemment c'est compliqué à faire tout le temps exactement comme ça, mais c'est ça la philosophie de la formation en tout cas.
D'accord. Et est-ce que le bocal est toujours ouvert 24 heures sur 24 ou c'est plus le cas non plus?
Alors, de toute façon, en ce moment, bon.
Oui, enfin, on
voilà,
parle
mais,
dans un...
mais sinon, même avant, en fait, il y a les histoires de Vigipirate et de trucs comme ça qui font que c'est compliqué. Mais c'est arrivé à certaines périodes, alors que moi je suis pas à Paris depuis longtemps, seulement depuis 2016, je connaissais pas la fac avant. Mais c'est arrivé que le bocal soit ouvert la nuit et que des étudiants restent bosser la nuit dedans encore, mais c'est quand même plus la même chose que...
Oui, et puis le contexte n'est plus le même, parce qu'à l'époque on avait peu d'ordinateurs à la maison, c'était dans les années 90 pour ce qui me concerne. Aujourd'hui les gens ont des ordinateurs chez eux, donc
alors,
le contexte...
Alors, les gens ont des ordinateurs chez eux.
Oui, on va y revenir tout à l'heure, ça dépend qui. Oui, on va y revenir tout à l'heure justement sur la partie les étudiants et étudiantes.
On reste dans le 93.
Ouais. Oui, on reste dans le 93. Donc voilà, donc une formation vraiment très pratique. Et donc quel type de langage ou quel type de projet sur lesquels travaillent les étudiants, Anna, notamment en première année quand ils arrivent?
Alors, en première année, on fait beaucoup par l'exemple, hein, on leur donne... on commence en fait à mettre la main dans différents langages de programmation, on fait un petit tour, on commence déjà à leur montrer un peu l'environnement, souvent ils connaissent pas, hein, ils viennent avec des machines, enfin ils sont pas très, on va dire, à l'aise avec Linux, tout ça, on leur montre un tout petit peu l'environnement, comment on fait des petits scripts avec, à la rigueur on commence avec le shell, tout ça, on fait un peu de l'explication entre quels sont les différents types de langages et on insiste pas mal sur le... Là, actuellement, je pense qu'on fait plus Python. Ça dépend de... Voilà, on suit un peu l'évolution aussi. Oui. On fait du C. On fait toujours du racket. Hein. On évolue. Hein. L'ISP a évolué. Enfin, mais en tout cas, on garde toujours un peu dans l'esprit de montrer les différents aspects d'approche pour résoudre un problème. Et moi, je continue à donner des cours à Prologue. Hein. Donc voilà, c'est toujours dans cet esprit-là. On montre des petits jeux, souvent, parce que c'est quand même plus attrayant pour les premières années. Chacun avec son domaine. Je fais, par exemple, peut-être plus d'exemples sur la logique. Pablo, il va faire plus avec, des jeux avec sécurité. Les autres, ils vont faire des jeux avec, ou qui impliquent les images. Enfin, voilà, on essaye chacun de mettre un peu ce qui l'intéresse un peu dans les petits projets. Et puis, c'est toujours avec plus de temps derrière la machine. On est derrière eux. Enfin, en tout cas, le permettre, parce qu'actuellement, c'est vrai qu'on travaille tous à distance, mais en tout cas, on est derrière les étudiants, on débloque tout de suite dès qu'ils ont le moindre problème, on est nous-mêmes à faire les cours, que ce soit des TP, des TD, enfin, parce que bon, on n'a pas cette notion des magistraux, nous, on travaille toujours avec des petits groupes, mais on est toujours derrière les étudiants pour les aider à se débloquer, puis à s'épanouir en codant, quoi, parce que c'est pour ça qu'ils viennent à Paris 8, parce qu'ils adorent ça, parce qu'ils aiment justement créer des choses, et puis on est là pour les aider à aller vers ce qu'ils rêvent de, où est-ce qu'ils aimeraient y aller.
Alors justement, on va faire une pause musicale, mais juste après la pause musicale, on parlera justement des motivations, des compétences nécessaires peut-être pour les étudiants avant, et je parlerai donc des questions que pose Marie-Odile sur le salon web. Mais après la pause musicale, donc on va poursuivre notre découverte de cet artiste qui s'appelle Sapajou. On va écouter Lion, donc par Sapajou. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. Thank you.
Nous venons d'écouter Lion par Sapajou, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Vous retrouverez les références sur april.org et sur causecommune.fm. Et le site de l'artiste est sur SoundCloud, c'est Sapajou Beats. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM, et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous discutons actuellement du département informatique de l'Université Paris 8 avec nos invités Anna Papa, maîtresse de conférence en informatique, et Pablo Rosi, maître de conférence en informatique et co-responsable tous les deux de la licence informatique et vidéoludisme à l'Université Paris 8. Alors, juste avant la pause musicale, je disais qu'on parlait un petit peu des motivations des étudiants. Anna nous parlait un petit peu des étudiants qui arrivaient, et une des questions donc qu'on peut se poser, enfin, on peut se poser plusieurs questions par rapport aux étudiants, mais notamment Marie-Odile sur le salon web. Alors, je vous rappelle que vous pouvez participer, hein, vous allez sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Marie-Odile demande, les étudiants doivent avoir quel bac, et est-ce que les étudiants doivent avoir fait beaucoup de maths avant de candidater à l'université pour le département informatique? Anna, et puis après Pablo.
Oui, bon, je pense que je dirais non, c'est pas nécessaire. Du moment, pour nous, c'est plus la motivation qui compte, c'est-à-dire quelqu'un qui a même qui a fait un bac littéraire, hein, qui aime coder, qui aime la programmation, qui aimerait bien apprendre à faire l'informatique pour créer des choses qui lui plaisent. Bah oui, on l'accepte, il n'y a pas de souci. C'est pas une prérogative. Pablo, il peut rajouter effectivement.
D'accord. Donc il y a pas forcément, même si on est mauvais en maths ou mauvaise en maths, c'est pas un problème pour candidater à la licence informatique.
Donc maintenant on est obligé de passer par Parcoursup, vous savez, pour les candidatures en licence.
Ouais, enfin, voilà.
Donc sur Parcoursup, il y a un truc qui s'appelle le projet de formation motivé. Alors c'est pas partout comme ça, mais nous on les lit, ces projets de formation, et c'est ça le premier critère.
C'est une sorte de lettre de motivation.
C'est ça, ouais, un genre de lettre de motivation.
Ouais, okay.
Et on a sur à la fois dans les attendus locaux, ça s'appelle sur Parcoursup, et sur le site de la formation qui est linké depuis april.org sur la page de l'émission, il y a une note au candidat, et ce qu'on dit dedans qui est vrai, c'est que ce à quoi on fait attention, c'est de montrer de la motivation concrète pour la programmation, parce qu'en vérité, si on n'aime pas programmer, ça va pas être très épanouissant notre formation. Comme on vous l'a dit, c'est une formation où on fait beaucoup ça, parce qu'on découvre, la formule que j'avais trouvée, c'est de dire que notre formation, elle nous fait découvrir en largeur l'informatique par la pratique en profondeur de la programmation. Donc effectivement, si on n'aime pas la programmation, c'est difficile. Donc nous, ce qu'on attend, c'est des gens motivés, quel que soit le bac, qui savent qu'ils vont aimer la programmation. Et donc comment on montre de la motivation concrète? C'est pas en disant j'adore ça depuis tout petit, ça me fait rêver, non, c'est dire j'ai pris le temps, j'ai pris au moins un après-midi pour aller sur internet, on donne des liens sur le site, hein, pour tester la programmation, j'ai installé Python par exemple et j'ai fait un petit programme, j'ai trouvé ça super excitant, c'était marrant, je sais que j'adore ça, voilà, nous expliquer ça. Et donc c'est ça qu'on regarde en premier, et ensuite on doit faire un classement malheureusement, donc on est obligé de faire ça, et puis on a un nombre de places limité forcément.
Il y a combien de places d'ailleurs?
On est à 70 places sur Parcoursup.
D'accord.
Maintenant.
Okay. Voilà. Et est-ce que vous avez donc dans ces sortes de lettres de motivation des personnes qui vous envoient carrément des références vers leur forge?
Oui, c'est arrivé, c'est arrivé qu'on ait des liens vers des GitLab, des GitHub, etc.
Oui, oui.
Donc c'est des forges de développement, là où on met du code source.
Ça, on prend direct. Hein. Enfin,
d'accord.
C'est sûr. Quoi.
Okay.
Donc clairement, ça, c'est le genre d'étudiants où nous, on sait que chez nous, ils vont s'épanouir, qu'ils vont super bien réussir, que c'est des gens qui vont être heureux dans leurs études, et c'est ça qu'on veut en fait. Quoi. Donc, faut savoir quand même que le profil des étudiants en informatique, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Donc, quand moi j'ai fait mes études, par exemple, il n'y avait pas du tout d'informatique au lycée. Et les gens qui arrivaient en informatique, en gros, c'était un peu déjà des geeks. Donc, c'était un certain profil. Ces dernières années, les profils qui arrivaient en première année en informatique, c'était des gens, beaucoup, et c'est tout à fait légitime, qui allaient par là, pas toujours, mais souvent un peu par défaut, parce que c'est un domaine qui embauche, par exemple. Donc quand on sait pas trop ce qu'on veut faire, qu'on sait que on est un petit peu à l'aise plutôt dans les matières scientifiques, des choses comme ça, faire de l'informatique, c'est un peu l'assurance d'avoir un emploi à la fin. Et alors c'est tout à fait légitime de faire ça. Et là on va avoir des nouveaux profils qui arrivent avec l'ouverture de l'option NSI au lycée.
NSI, rappelle ce que ça veut dire.
Numérique et sciences informatiques, donc c'est avec un programme assez ambitieux d'ailleurs. Donc les étudiants qui sortent et étudiantes qui sortent, donc les candidats et candidates qui ne sont pas encore étudiants et étudiantes, qui sortent de ce cursus, ils auront une vraie expérience, une vraie aperçu de ce que c'est l'informatique et de ce que c'est une formation en informatique, puisque parfois on avait des candidats aussi qui confondaient utilisation d'un ordinateur, apprendre à utiliser des logiciels, et ce que c'est qu'on fait en licence d'informatique, c'est-à-dire apprendre à programmer et développer des logiciels, concevoir des logiciels.
D'accord. Alors, je vois la question de Sarah sur le salon web, je vais la poser après. Mais juste avant, je voudrais poursuivre sur ce sujet-là, notamment des métiers après. Puis j'ai une question un peu, peut-être un peu troll, par rapport à l'école 42. Parce que je vois que sur le salon web, on parle de l'école 42 qui est aussi ouverte 24 heures sur 24. Finalement, quelles sont les différences pour un étudiant ou une étudiante qui dirait, bah tiens, justement, je veux vraiment faire de la programmation aujourd'hui, je veux en faire mon métier, j'ai entendu parler de l'école 42, aujourd'hui j'entends parler du département informatique de Paris 8. Quelles sont les différences et pourquoi aller à Paris 8 ?
Alors, c'est pas vraiment une question de troll, en fait, c'est une vraie question. Alors, les différences concrètes, c'est que nous, on donne un diplôme et que nous, il y a des profs.
Ouais. Ça, maintenant, c'est pas reconnu.
Maintenant,
voilà.
L'école 42...
L'école 42, c'est pas reconnu, voilà.
Ouais. Maintenant, l'école 42, c'est une école qui peut marcher pour certains profils. En gros, les étudiants qui n'ont pas besoin de l'école 42 pour réussir vont réussir à l'école 42 parce qu'ils auraient réussi n'importe où.
D'accord.
Voilà. Il y a des gens pour qui ça va être plus la forme de peut-être de liberté ou de pédagogie vraiment par projet comme ça qu'il y a dans cette école va peut-être plus leur correspondre, mais c'est clairement pas fait pour tout le monde. Et je pense que il doit y avoir un taux d'abandon et tout ça pendant le...
Ouais, la période
j'ai pas de chiffres, c'est pour ça que je dis je pense, mais en vérité on a déjà accueilli des gens qui venaient de là-bas ou de formations très similaires mais payantes. L'école 42 a l'avantage d'être gratuite quand même, mais même si elle reprend le modèle de certaines autres écoles, on a déjà accueilli des gens donc qui candidatent directement en deuxième année par exemple ou quoi, qui ont besoin d'un petit peu d'encadrement, qui ont besoin de juste d'avoir des profs, qui ont besoin d'avoir un contact et surtout des un encadrement pas forcément que pédagogique mais aussi pour éviter le boys club ou les choses comme ça qui peuvent se passer dans certains types d'établissements comme
ça. On
en
parlait juste après justement. Et avant de parler de ça, Anna, est-ce que tu veux compléter sur la question par rapport à l'école 42? J'avais l'impression que tu voulais...
Non, je pense que quelqu'un qui est prêt à faire ce type de formation, ces projets-là, dans l'idée, reprend un peu l'idée, voilà, c'est parce qu'il dit, on s'affiche des diplômes, on prend celui qui est motivé par la programmation et donc on l'accepte. C'est à peu près le même esprit qu'on avait à l'époque, même pour la fondation de l'université. Mais il n'y a pas, c'est associatif, il n'y a pas cette reconnaissance des diplômes, mais effectivement, quelqu'un qui pourrait faire des choses pour apprendre à réussir là-bas, il a tout à fait sa place avec un diplôme à la main à l'université, quoi.
D'accord. Alors, je complète ma deuxième question avant qu'on aborde la question des boys clubs et la question de Sarah sur le salon web. Tu as parlé des débouchés. Un étudiant, une étudiante qui fait le département informatique à Paris 8, quels sont les débouchés en termes professionnels, Anna ?
Pas partout. Nous sommes, je pense que les entreprises qui connaissent nos étudiants, franchement, ils reviennent. Que ce soit parce qu'on a d'excellents programmeurs, et c'est quelque chose qui manque encore. Il y a des demandes. Donc les étudiants qui sont bons en programmation et ont fait d'excellents programmeurs, d'excellents développeurs, ils peuvent trouver un travail n'importe quel domaine de l'informatique, que ce soit en images, les jeux, les data science, enfin tout ce qu'ils veulent, même continuer avec les masters, etc., en IA.
Je confirme totalement ce que dit Anna. Effectivement, on a des super bons retours des stages des étudiants en général. Ils sont acceptés dans les masters dans lesquels ils candidatent, nos étudiants. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils sortent... Alors, sur les débouchés, il faut bien comprendre quand on démarre une licence que le but premier d'une licence, c'est de continuer en master. La plupart des collègues chez qui on envoie des étudiants en master, que ce soit à Paris 8 évidemment, mais même dans d'autres formations, parce que par exemple, moi je connais un peu les trucs en sécurité, il y a un super bon master à Limoges, il y a des très bonnes formations à Rennes, qui est la ville de la cybersécurité en France maintenant. Donc on envoie des étudiants là-bas, on a toujours des super retours des collègues. C'est un peu mécanique, c'est juste que ils savent déjà programmer pour de vrai et ils ont fait un an d'informatique de plus que les autres, quoi. Puisqu'on a commencé à faire
parce
que ça dès la première année.
En première année, voilà. D'accord.
Okay. Donc évidemment, il y a cet aspect-là qui joue énormément. Ouais.
D'accord. Alors là, on va venir justement sur la question de Sarah, la notion des boys club. Donc la question de Sarah, donc sur le salon web, je vous rappelle causecommune.fm, bouton de chat, et vous allez sur le salon libre à vous. Donc Sarah demande, est-ce qu'il y a une attention particulière pour la parité dans la sélection à l'entrée?
Oui, on n'a pas le droit par contre, mais oui.
Alors justement, j'allais dire, comment ça se passe?
Je vais pas en parler du coup.
Mais, tu vas pas en parler, d'accord.
Mais oui, on fait attention à ça.
Il y a combien d'étudiantes par rapport aux étudiants d'ailleurs dans la promo?
On essaye de faire en sorte qu'il y ait au moins un tiers pris en L1 d'étudiants.
Voilà, il y a un tiers, deux tiers à peu près.
Voilà.
D'accord, un tiers, deux tiers. Ce qui, pour un département informatique, est plutôt pas mal. À mon époque, c'était peut-être un dixième.
Ouais, bah même moi, quand j'ai fait mes études, c'était ça. Hein. Mais, et je pense que c'est encore ça dans pas mal d'établissements. Mais bon, sur Parcoursup, c'est explicitement écrit qu'on n'a pas le droit de faire de distinction sur ce genre de critères-là. Donc, officiellement, on n'en fait pas.
On ne fait pas, non, on ne fait pas, on ne fait pas. Mais il y a beaucoup aussi, oui. Ça commence à augmenter aussi la demande de venir vers ces types de cursus, ces types de formations par les filles. Ouais. Ça a été beaucoup plus... à un moment donné, ça faisait peur. Maintenant, c'est plus le cas. Les filles, elles adorent les jeux informatiques. C'est pratiquement très... au niveau de démocratisation, on va dire, mais c'est très partagé au niveau goût par les filles et les garçons. Donc, on a quand même plus de demandes aussi. Donc, c'est pas la peine de faire cet effort, on va dire. Parce qu'on a suffisamment de demandes pour être dans le tiers, deux tiers. Voilà.
D'accord.
En tout cas, ça correspond à ça, pratiquement au niveau demande et par rapport à l'acceptation.
D'accord. Je vais juste rappeler qu'on a consacré plusieurs émissions à cette question, notamment de la place des femmes dans l'informatique. Il y en a plusieurs. Vous avez je ne vais pas toutes les citer parce que je crois qu'il y en a trois ou quatre sur différents sujets. La dernière étant assez récente avec Ada Tech School, Django Girls Paris, et je vais avoir un trou de mémoire sur la troisième structure, mais je fais confiance à la régie pour me le signaler. La question des boys, je crois que c'est toi qui as parlé de boys club d'ailleurs.
Ouais.
Donc ma question, comment ça se passe justement entre les étudiantes et étudiants, parce que bon, on connaît le monde, enfin on connaît le monde informatique et le monde masculin. Comment ça se passe à Paris 8?
Nous on essaye de faire très attention à ça. Donc par exemple dans la réunion de rentrée, je prends du temps pour faire dans la présentation de la formation et tout ça. Donc je prends du temps toujours pour bien mettre les choses au clair sur le fait qu'on tolère pas les discriminations, les choses comme ça, qu'on tolère pas le harcèlement, qu'on tolère pas ces choses là. On a une certaine proximité avec nos étudiants, on est étudiantes, on a la chance, donc comme Anna le disait, on ne fait pas de cours en amphi, on a tous les étudiants par groupe, donc les étudiants de première année sont répartis en trois groupes chez nous, et un même cours est donné du coup par trois enseignants qui vont faire entièrement le cours, et enseignantes qui vont faire entièrement le cours, donc les cours magistraux, les TD, les travaux dirigés, les travaux pratiques, les projets, l'évaluation, qui vont le faire à leur sauce, avec leur groupe et en fonction du groupe, etc. aussi. Et donc du coup, cette proximité, elle nous permet de, quand il y a un souci, que les étudiants osent nous en parler. On a aussi des étudiants tuteurs et tutrices, donc ce qu'on appelle les tuteurices, qui font le relais aussi quand il y a besoin, par exemple.
Ça, c'était quelque chose de très important. Je sais pas si dans d'autres facs,
oui, on l'avait aussi. Ouais.
Mais effectivement, quand j'ai fait mes études, cette notion de tuteur et tutrice pour les nouveaux et encadrés par les anciens, c'était vraiment fondamental. Ouais.
Ouais. Et je peux raconter une anecdote de quelque chose qui m'a beaucoup touché cette année, par exemple. Dans un groupe de L1 cette année, on a une personne non binaire. Et j'ai quelque chose, j'avais un peu. Je faisais attention à ce que ça se passe bien. Et j'ai rien eu à faire pour que ses camarades, en parlant, utilisent le pronom Yel. Par exemple,
je trouvais ça super.
Oui, voilà. Visiblement, ça n'a posé de problème à personne. Et en tout cas, j'en ai pas eu écho. Il y a sûrement eu une discussion entre eux et entre elles, visiblement, parce que ça m'étonnerait qu'ils arrivent tous en L1 avec déjà la connaissance de ces trucs-là et la déconstruction nécessaire à l'utiliser de manière totalement normale, quoi. Mais c'était le cas dans nos échanges assez rapidement après le début de l'année. Donc j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien et que les choses bougent dans le bon sens de ce côté-là, même si c'est sûr qu'il faut rester vigilant et vigilante tout le temps, quoi.
D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette partie spécifique? J'allais dire, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On a oublié une spécificité importante de la licence avant qu'on parle des conditions actuelles de la pandémie des étudiants, une spécificité historique même. C'est la place du logiciel libre. Quelle est la place du logiciel libre dans la formation du département informatique? Anna, on va commencer par Anna.
C'est central. On n'a rien de propriétaire, je crois. Franchement, j'ai appris comme ça, on continue comme ça, et je pense qu'on va continuer comme ça. Hein. Tout l'esprit du partage, on le passe, on travaille avec, on le fabrique et on le partage. Enfin, je veux dire, la question ne se pose même pas. J'ai dit aux étudiants, parce qu'ils me disent, madame, ça se passe comme ça sur Windows, je sais pas, j'en ai pas vu depuis les années 90, mais oui, je vous crois, vous pouvez faire ceci avec. Et je pense que la majorité de jeunes maintenant, ils sont très, ils vont plus facilement vers le libre parce qu'ils le connaissent un peu plus qu'avant. Et malgré il y a quand même, ça nous est un peu imposé, hein, on va dire, plein de choses propriétaires, mais il y a quand même chez nous en tout cas une vraie envie de continuer avec le libre, et on le fait autant que possible, même avec les logiciels qui sont à la mode. On essaie toujours de trouver des alternatives dans le libre, et on essaie aussi d'inculquer ces principes aux étudiants. Et ça se passe bien. Pour l'instant, je pense que on se débrouille pas mal, hein, si je peux me permettre.
Et donc, ça fait partie, comme tu disais, Pablo, de l'utilisation émancipatrice des technologies, c'est ça ?
Absolument.
Oui, tout à fait, ouais. On leur parle dès le début d'année. Donc là, au premier semestre de la formation, il y a un cours qui s'appelle Gestion d'identité en ligne, où le but, c'est essayer de leur faire comprendre. C'est un premier cours qui après va être poursuivi par Histoire de l'informatique, et puis en deuxième année et en troisième année, il y a un cours qui s'appelle Droit, éthique, informatique, et il y a même un cours de contribution à un logiciel libre qui s'appelle Développement de logiciels libres, où en gros ils ont un semestre pour faire une contribution au logiciel qu'ils veulent.
C'est en troisième
et
année,
on les accompagne, ouais, tout à fait, ouais.
D'accord.
Avec quelques success stories amusantes, comme une petite contribution dans Emacs ou une contribution dans LS des GNU Core Utils, qui était complètement folle il y a quelques années. Et puis bon, c'est un cours qui se passe très bien toujours, c'est très amusant.
Oui, ça doit être passionnant en plus pour la personne de contribuer directement à un logiciel qui est utilisé par des millions de personnes. Parce que ces deux logiciels que les gens n'ont peut-être pas entendu parler sont quand même utilisés par des millions de personnes.
Oui, tout à fait.
C'est un environnement de travail complet, et LS, c'est une petite commande qui permet de lister des fichiers sur un système.
C'est ça, c'est ça. Et du coup, donc, on les incite. Alors, évidemment, elle et eux, entre eux, ils utilisent beaucoup des choses comme Discord, des choses comme ça. Mais nous, on essaye et on est aidé par la DSI de Paris 8. Hein. Faut savoir qu'il y a des facs qui sont passées chez Google ou Microsoft pour gérer les mails, par exemple. À Paris 8, c'est complètement hors de question. C'est une fac qui garde un peu quand même cette identité-là aussi, au niveau de l'établissement, pas que dans notre formation, quoi. Donc, par exemple, on utilise un logiciel qui s'appelle Big Blue Button pour ne pas utiliser Zoom.
Vidéoconférence,
c'est ça, tout à fait. Pour les cours. Alors avec les collègues là, donc Anna et d'autres collègues du département, on a même monté une association pour avoir des ressources que Paris 8 peut pas forcément nous mettre à disposition, et on héberge une forge logicielle GitLab, qui est un logiciel libre qui permet de collaborer et de travailler au développement de logiciels qu'on met à disposition de nos étudiants et étudiantes, et un logiciel qui s'appelle Mattermost, qui est un équivalent de Slack, qui est en gros un espèce de forum slash de chat slash discussion, quoi, qui nous permet par exemple de faire le lien avec eux, avec les cours. Moi, j'ai l'application sur mon téléphone par exemple qui me permet de, donc en ce moment faut être très disponible pour les étudiants et étudiantes, alors bon, pour nous c'est très difficile pour elle cette période, pour nous aussi, mais du coup on essaye de d'être très très joignable, quoi, puisqu'on peut pas les voir.
Alors justement, parce que le temps file et on va aborder ce sujet, je voulais juste faire un petit coucou, parce que tu as parlé de la DSI, donc la direction informatique de Paris 8, un petit coucou à Ivalo Ganchef qui travaille là-bas et qui nous organise régulièrement nos assemblées générales, et d'ailleurs notre assemblée générale, qui n'aura pas lieu malheureusement sans doute à Paris 8, sera organisée avec Bibou Bloton, l'outil de visioconférence. Alors tu viens de parler justement des étudiants et des étudiantes et du contexte évidemment que tout le monde connaît. Alors comment ça se passe actuellement, justement, depuis la rentrée, avec les étudiants et les étudiantes qui sont donc à distance ? Comment ça se passe en termes de la formation ? Et puis comment vont les étudiants et les étudiantes ?
Alors ils vont pas bien, elles vont pas bien. Ça, on peut le dire, c'est très clair. Le gouvernement aide pas. Les annonces qui vont dans un sens, dans l'autre, les mensonges continuent de l'autre Frédéric Vidal, là.
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Pas du tout, ça c'est clair. Donc nous, il faut savoir qu'on est dans une situation un peu particulière où on a quand même des gros effectifs étudiantes par rapport au nombre qu'on est d'enseignants et aux tailles de nos salles informatiques. Alors c'est en train de s'améliorer parce qu'on a une grosse lutte dont on était déjà venu parler dans cette émission qui aboutit. Là, on a 3 postes ouverts au concours, un poste de professeur agrégé, un poste de maître de conférence et un poste de professeur des universités. Pour la rentrée prochaine, et on a eu cette diminution de la capacité d'accueil sur Parcoursup de 90 à 70, mais malgré tout, on a des gros effectifs, et donc on a commencé par exemple cette année avant que le gouvernement annonce le confinement qui a eu lieu, en demi-groupe, pour que les étudiants puissent venir à la fac quand même. Puis ensuite, quand ils ont mis la jauge à 50% de capacité d'accueil, la réalité, contrairement à ce que raconte et ment la ministre dans les médias, c'est qu'un demi-groupe, ça rentre pas dans une demi-salle, en fait. Ça déborde. Donc, quand on a une salle avec 32 places, par exemple, et que les groupes, ils font 45 étudiants ou étudiantes, un demi-groupe, quand on a mis les jauges des salles à 50%, ça rentre plus. Donc, on est passé 3 semaines avant tout le monde en distance complet. Et en fait, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, je fais des guillemets avec mes mains autour de ma tête. Aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur chez lui, chez elle. Non. Et donc, du coup, nos salles informatiques sont, depuis ça, utilisées, du coup, par les étudiantes et les étudiants qui n'ont pas forcément chez elles ou chez eux d'ordinateur ou de connexion internet qui sont ou juste le calme nécessaire pour pouvoir suivre dans des bonnes conditions leurs cours à distance et qui du coup viennent se mettre dans les salles de TP en respectant, donc on a attribué des postes à chacun, chacune, pour qu'ils respectent qu'il n'y ait qu'un poste sur deux qui soit utilisé, les jauges sont respectées, tout ça. Et du coup, par exemple, quand la ministre dit « mais on va faire venir les étudiants et les étudiantes un jour par semaine ou à 50% pour les L1 », ben non, en fait, c'est pas vrai, elle ment, on peut pas, quoi. Parce que les salles, elles sont utilisées par des étudiants de toute année, toute la formation, qui ont besoin, pour suivre leur cours à distance, d'être dans les conditions de la salle de la fac, parce qu'il y a l'ordinateur, il y a la connexion, etc. Et donc l'UFR, STN, qui est l'ancienne UFR mythique dans lequel il y a notre département informatique, a payé par exemple des casques aussi
pour fournir aux étudiants,
pour les étudiants qui ont besoin, ce genre de choses-là, oui.
Ok, parce qu'on va aussi rappeler encore une fois que c'est à Saint-Denis qui a sans doute la problématique aussi pour les étudiants. Beaucoup d'étudiants et étudiantes de Saint-Denis devaient sans doute travailler pour payer une partie de leurs études.
C'est le facteur numéro 1 d'abandon ou d'échec. Hein. Faut savoir que en L1, en gros, on diplôme en L3 à peu près un tiers de l'effectif qu'on a en L1.
D'accord.
Et effectivement, les gens qui sortent de chez nous après 3 ou 4 ans, c'est des monstres, ils sont pris partout où ils veulent, ils sont super bons, etc. Comme tu disais, quand on sort de cette licence...
Oui, on a la CNIAC et on réussit partout.
Même pas que la CNIAC, juste on est bon et oui. Bonne tout simplement. Quoi. Genre, ils sont fortes, vraiment. Je suis tous les jours impressionné par nos étudiants et nos étudiantes. Mais par contre, un des gros facteurs d'échec à l'université, et ça c'est chez nous comme partout, hein, mais sauf que chez nous, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, c'est d'avoir un emploi à côté... avec des horaires. Alors nous, on fait plein d'efforts pour que ça se passe bien. Par exemple, vous pouvez regarder sur le site de la formation les emplois du temps. Je fais énormément d'efforts quand je fais les emplois du temps pour que chaque groupe ait au moins un jour entier libre par semaine plus une autre demi-journée pour essayer qu'ils sachent dès que possible quand c'est qu'ils vont avoir un jour complet dans la semaine de dispo pour pouvoir bosser à côté, par exemple, faire ce genre de choses-là. C'est des attentions qui sont pas présentes dans toutes les formations, qui en ont pas tout autant besoin, faut bien le dire. À partir de la L3 aussi, on est ouvert en alternance. Alors, c'est pas forcément quelque chose que dans l'absolu, j'approuve à 100%, mais ça permet au moins d'avoir... pour certains étudiants, une rémunération et un emploi avec des horaires prévus qui collent avec la formation et un contenu et des missions à faire dans leur travail qui collent avec la formation aussi. Donc d'accord. En ce sens-là, c'est intéressant. Et donc, on essaye de faire en sorte que ces choses-là se passent bien. Mais oui, il y a beaucoup de nos étudiants qui ont un boulot à côté, énormément.
Et là, j'étais en train de regarder une actu qu'on avait publiée quand le collectif des enseignants et enseignantes de la licence informatique de Paris 8 avait exprimé les problématiques. Et tu avais indiqué qu'avoir passé l'équivalent de 5 mois de travail supplémentaire pour pallier au manque et de ne pas être le seul de tes collègues à te surinvestir dans l'enseignement. Anna, sur cet aspect étudiant, surinvestissement, comment tu le vis, toi? Et comment le vivent tes étudiants et étudiantes?
Écoute, Fred, il faut être honnête. Hein. Si on fait ça à Saint-Denis, c'est vraiment... Je pense que quelque part, on est des gens passionnés. On aime ce qu'on fait. Il n'y a pas... tu sais, pour faire le boulot d'enseignant-chercheur et avec des conditions un peu... Allez, je ne vais pas dire difficiles, mais par exemple, pas à ce qu'on devrait en avoir... Et ça, c'est très compliqué. C'est vraiment notre passion pour l'enseignement, le fait que on aime cette interaction avec les étudiants, et la recherche aussi, bien évidemment, même si les conditions pour la faire, ça devient de plus en plus difficile. On est tous en double notre service. Au niveau R, c'est ça qui nous a épuisés. Donc, effectivement, à force d'épuiser, au bout d'un moment, c'est intenable. On a pu, avec cette lutte, gagner ces 3 postes. J'imagine, c'est des postes qu'on devrait avoir, mais là, on parle, on les a gagnés. Enfin, bon, tu vois les difficultés que nous avons. On espère qu'à partir de la rentrée prochaine, ça va être un peu plus cool pour nous. On va trouver un peu un travail plus serein, parce que on ne sera pas obligé, parce que là on est obligé pour faire tourner la formation de travailler au-delà de ce qu'il faut et même avec des contraintes, je ne vous dis pas maintenant avec cette distance-là, mais enfin même sur place parfois. Mais voilà quoi, c'est notre ouais, passion, c'est le fait qu'on est, on reste toujours proche de nos étudiants. Les étudiants, je pense qu'ils, je le crois, hein, qu'ils se sentent à l'aise pour venir nous parler clairement. Même maintenant avec la distance qui est entre nous, le fait on chatte beaucoup dans le chat parfois. Voilà, on se parle comme si on était, enfin bon, je vais mettre une espèce de copinage entre guillemets, mais il y a cette proximité en fait dans nos échanges. Ils nous disent qu'ils vont pas bien, comme c'est le cas. Et puis, ils savent qu'on est près d'eux. On a fait cette, comme Pablo il a dit, on a fait cet inventaire, on a vu les besoins de chacun au tout début de l'année. Qu'est-ce qu'il manque ? Micro, écouteurs, ordi, écran, caméra, enfin, on a tout mis en place pour que tous les étudiants en licence puissent venir avoir au moins un ordi dédié à eux, qui puissent, comme ça, ils peuvent suivre les cours sans avoir d'autres préoccupations, quoi. Après, il y a toujours, bon, les difficultés financières, tout ça. On essaye de les orienter vers les assos, tout ça. Il y a beaucoup qui se fait à Paris 8, hein. Il y a pas, en général, hein, il y a une dynamique pour aider les étudiants assez forte.
Ok, merci Anna. Je vais juste vous laisser 30 secondes chacun parce que les personnes du sujet suivant sont arrivées. Et je vais juste vous dire quand même que Sarah sur le salon web vous dit c'est vrai que ça donne envie de reprendre des cours. Elle dit bravo à vous, on sent votre investissement et ça fait trop envie. Donc voilà, vous donnez envie.
Merci.
Voilà, alors 30 secondes de conclusion ou de message à faire passer chacun. On va commencer par Anna, vas-y. Si tu l'envies, hein.
Franchement, je trouve qu'on a la meilleure, je sais pas, c'est prétentieux, mais en tout cas, pour ceux qui voient, qui conçoivent l'informatique comme nous, franchement, c'est là où il faut être. Venez à faire l'informatique à Paris 8, c'est vraiment the place to be, avec les ingénieurs qui sont aussi fous que les étudiants, et puis voilà, c'est super.
Et bah, du coup, comme Anna a déjà dit ça, moi je vais compléter en disant que effectivement, donc les trois postes qu'on a récupérés pour la rentrée prochaine, c'est suite à une grosse bataille dont on était en partie déjà venu parler ici dans Libre à vous et qui dans laquelle on a été accompagné par la CGT notamment, qui nous a permis de faire ça. Faut savoir que ces trois postes, c'est pas des nouveaux postes, c'est des postes qu'on récupère qu'on a perdu depuis que moi j'étais arrivé en 2016 parce que des départs à la retraite m'ont remplacé, etc. Et que toutes ces choses-là vont de pire en pire. Anna a parlé un peu de recherche, notamment à cause de la loi de programmation de la recherche de Vidal et de ce gouvernement. C'est quelque chose dont on n'a pas trop eu le temps de discuter là, mais c'est vraiment quelque chose contre lequel on était en lutte, pas que nous, hein, toute la communauté universitaire. Et le confinement a arrêté ça, et Vidal en a profité pour...
Frédéric
faire,
Vidal.
Ouais, on a profité pour... pour faire passer la loi, et ça va pas du tout. Enfin, donc,
il y a beaucoup de choses qui
sont de pire en pire à l'université. Et c'est notamment à cause de ce genre de loi qui rentre dans un processus qui, comme Parcoursup, comme la loi ORE avant, etc. Donc en lutte contre ça aussi, ouais.
Ouais, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir. Je vais juste
dire,
avant d'oublier, que l'émission est dédiée notamment à d'autres enseignants magnifiques que Anna et moi on a pu connaître à Paris 8, Patrick Sins, Jean Méa et Marc Détienne, pour qui l'April doit beaucoup. Une nuit passée avec Marc Détienne dans les années 90. Et souvenir aussi à Marcel Provost et Christian Colère, qui étaient les deux administrateurs système de l'époque, qui avaient ouvert aux étudiants, qui avait envie de travailler avec eux. Donc c'était le département informatique de l'université Paris 8 de Saint-Denis, donc dans le 93, donc avec Anna Papa et Pablo Rosi, tous les deux maîtres de conférence. Je vous remercie. Passez une
belle
fin de journée.
Merci beaucoup de l'invitation.
Merci.
À bientôt, Anna, en tout cas.
Merci.